Chapitre 14. Le fer d'Egbe. C'est le printemps et l'époque où, de toutes les forges du Fermland, le fer s'achemine vers Gothenburg. Mais à Egbe, ils n'ont point de fer à livrer. Le dernier automne, les usines avaient manqué d'eau, et pendant le printemps, les cavaliers avaient régné. Sous leur règne, les torrents s'étaient changés en cascades de bière et les ondes du Leven en flots de punch. On ne mettait point de fer dans les chauffes, mais les forgerons, en blouse et en sabon de bois, tournaient, devant les âtres, d'énormes quartiers de viande embrochés à leurs fourches, tandis que les apprentis armés de pinces présentaient aux braises des volailles lardées. On dansait le long des berges. On dormait sur l'établi des menuisiers. On jouait aux cartes autour de l'enclume. En ces jours heureux, on ne forgeait point de fer. Les négociants de Gothenburg commençaient d'attendre avec impatience le fer d'Egbe. On lisait et on relisait les contrats signés du commandant et de la commandante, des contrats où il était question de centaines et de centaines de quintaux. Mais les cavaliers se souciaient bien des contrats de la commandante. À Gothenburg, le fer arriva de Stomné et de Selier. Le fer de Kimsberg se fraya à travers le désert son chemin jusqu'au Fenern. Il vint du fer d'Udenholm et de Munkfors et de beaucoup d'autres forges. Quoi, Egbe n'est-il donc plus la principale des forges du Fermland? Personne ne veille donc plus sur la gloire du vieux domaine? Torrents et rivières, ports et écluses, bateaux et chalands s'étonnent et se demandent. Le fer d'Egbe ne paraîtra-t-il pas bientôt? Et dans les bois, dans les montagnes et les vallées, court un murmure de surprise. Le fer d'Egbe ne vient-il pas? Ne viendra-t-il jamais plus de fer d'Egbe? Et au fond des forêts, la meule de charbon fait des gorges chaudes. Les grosses têtes des martinets pouffent dans les forges. Les mines ouvrent leurs larges gueules et rient aux éclats. Les tiroirs des bureaux de commerce, où sont renfermés les contrats de la commandante, s'esclaffent. Avez-vous jamais entendu rien de plus drôle? Ils n'ont pas de fer à Egbe. Dans la plus importante forge du Fermland, ils n'ont pas de fer. Allons, debout, cavaliers insoucieux. Souffrirez-vous qu'une telle honte s'abatte sur Egbe? Vous l'aimez pourtant, cette place, la plus belle de la terre verte du bon Dieu. C'est vers elle que tendent vos désirs quand vous cheminez sur les routes. Debout, cavalier, et sauvez la réputation du domaine. D'ailleurs, si les marteaux d'Egbe ont chômé, on a dû travailler dans les 6 autres forges qui en dépendent, et y forger assez de fer pour répondre au contrat. Et Josta Berning se décide à aller trouver les intendants des 6 autres forges. Il jugea inutile de s'adresser à Hugfors, trop voisin d'Egbe, et remonta quelques milles vers le nord jusqu'à Lötafors. C'était une belle blase baignée par le Leven et protégée par le pic de Gurlita. On n'y avait rien fait, la roue était cassée depuis 6 mois. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas réparée? Le seul homme de la commune qui l'aurait pu était occupé. Il n'a pas été occupé tout l'hiver. Ne l'avait envoyé chercher chaque jour que Dieu donne, mais il n'est jamais venu. Il taillait des jeux de quilles et construisait des pavillons dans les jardins d'Egbe. Josta continue son chemin vers Björnidé, un superbe endroit où l'on eût rêvé de bâtir un château. La grande maison d'habitation y domine la vallée, dans un amphithéâtre de hauteur que borgne la ligne bleue du Leven. C'est un paysage à souhait pour les promenades au clair de lune. Les douces nuits d'été vous invitent à remonter la rivière jusqu'aux cascades et jusqu'aux vastes grottes où jadis grondaient les forges. Björnidé n'avait rien forgé de tout l'hiver, on n'avait pas même pu obtenir d'Egbe l'argent du charbon. Josta rebroussa chemin et se dirigea vers le sud. Mais pas plus à Eun que sous les forêts de Lufsta, il ne trouva la moindre barre de fer, et partout, on maudissait les cavaliers. Enfin, il arriva à Elkfors, petite forge perdue dans les collines à l'est du Leven. Bonne terre pour la chasse, bonnes eaux pour la pêche, solitude charmante pour le rêve, mais d'un abord difficile. Josta Berning et Don Juan s'en aperçurent. L'attendant de la forge, Bendix, prit un air grave et son visage se plissa soucieusement lorsqu'il écouta Josta. « Je vais vous montrer quelque chose de fort curieux, frère Josta, » dit-il. Et, ouvrant un tiroir, il y prit de petites limes d'acier très fines. « Vous ne devineriez pas où je les ai trouvées, » poursuivit-il. L'expression de son visage devint de plus en plus sombre. Josta Berling confessa qu'il n'en avait pas idée. « Eh bien, » reprit Bendix, « je les ai trouvés dans la bouche d'un rat mort. Il portait ses limes en guise de dents. Et vous comprenez qu'avec des dents pareilles, ces bêtes-là peuvent manger du fer. Elles ont rongé tout notre fer en barre. Quand je suis entré hier dans nos magasins, il n'y avait plus rien qu'un rat, un rat mort. Voulez-vous ces limes, frère Josta? Sur ma foi, elles sont fort intéressantes. » Josta Berling tomba sur une chaise en riant aux éclats. Et il revint à Egbe. Les cavaliers, réduits à 50 misérables quintaux qui dormaient dans leur magasin, entendaient toute la nature, y compris les gens, se moquer d'eux. Et les arbres leur faisaient des gestes de menace, et le gravier gémissait sous leurs pas, car les forges d'Egbe avaient perdu leur honneur. Mais pourquoi ton histoire? Voilà le fer d'Egbe. Le voilà chargé sur des chalands, et les chalands réunis à l'endroit où le Leven se déverse, par le Clarelf dans le Fenurn. Le voilà prêt à descendre jusqu'à Karlstadt pour y être pesé. De là, un bateau le transportera à travers le Fenurn jusqu'à Gothenburg. L'honneur d'Egbe est sauf. Comment? À Egbe, on n'avait que 50 quintaux, et dans les 6 autres forges, rien. Où a-t-on pu trouver ce poids énorme sous lequel les chalands ploient? Demandez-le aux cavaliers. Les cavaliers sont à bord. Ils comptent suivre leur fer jusqu'à Gothenburg. Ce n'est pas de vulgaires bateliers qu'ils ont remis leur précieux fardeau. Ils sont venus eux-mêmes avec des bouteilles et des paniers de provisions, des cors et des violons, des fruits, des lignes de pêche et des jeux de cartes. Ils ne quitteront point leur fer qu'ils ne l'aient vu décharger sur le quai de Gothenburg. Ils l'ont eux-mêmes embarqué. Et quand on l'aura transbordé dans le bateau de Karlstadt, ils seront là, veillant aux voiles et la main sur le gouvernail. Y a-t-il un banc de sable dans le Clarelf? Un écueil dans le Fenurn dont ils n'ont l'expérience? Et la barre des voiliers n'est-elle pas aussi familière à leurs mains que l'archer du violon et les rênes du traîneau? Comme ils choisissent ce fer, ils le couvrent de larges toiles. Ils n'en laissent pas une parcelle à nu. Ce sont ces lourdes barres grises qui vont sauver la gloire d'Egbe. Il n'est pas permis aux étrangers d'y jeter des regards indifférents. Aucun des cavaliers n'est resté au manoir. Le cousin Christopher a quitté le coin du feu. Le mélancolique Leuvenborg, son gougite de rêveur. Mais au moment où ils vont larguer les amarres, Leuvenborg leur crie d'arrêter et leur indique de la main une femme qui court sur la route, comme si elle était poursuivie. Il n'est pas rare que la vie arrange de ces rencontres extraordinaires. Que d'ailleurs, si elle vous étonne, étonnez-vous donc que les cavaliers fussent précisément à l'endroit où le bac du passeur traverse le Carlef, le lendemain même que s'était enfui la comtesse Elisabeth. Elle avait marché toute la nuit et arrivait en courant au débarcadère. Ils ne soupçonnèrent pas qu'ils se cachaient sous événements rustiques. Tout à coup, derrière elle, dans un nuage de poussière, apparut une grande calèche jaune. Attelée, la fugitive se précipita sur le chaland des cavaliers et cria « Cachez-moi, cachez-moi !» Puis elle trébucha contre une barre de fer et tomba. Les cavaliers reconnurent alors la jeune comtesse et s'empressèrent de démarrer et de gagner le milieu du courant. Le comte Henri et la comtesse Martha étaient assis dans la calèche. Ils interrogèrent le passeur. « Quels sont ces gens à bord de ce chaland ?» demanda la comtesse Martha. « Ce sont les cavaliers, comme nous avons coutume de les nommer, » répondit le passeur. « Oh !» dit la comtesse, « ta femme est en de bonnes mains, Henrik, il ne nous reste plus qu'à rentrer. » La jeune femme épouvantée s'était accroupie sans mot dire, les yeux fixés sur la rive. Elle ne se rendit bien compte de l'endroit où elle était qu'après avoir vu disparaître la voiture. Alors, elle se leva brusquement comme pour fuir, mais elle était prisonnière, au milieu des cavaliers interdits et muets. Ils avaient peine à retrouver dans cette étrangère salie par la marche, maigre, pâle, décharnée, aux yeux farouches, la petite comtesse qui les charmait naguère de sa grâce et de sa fragilité. Josta Berling, à quelques pas en arrière, incertain si sa vue ne lui serait pas trop pénible, n'osait se montrer. Elle se releva et cria « Je veux partir !» Elle insistait pour qu'on la fît passer à l'autre rive, sur le canot qui suivait le chaland. Mais personne n'avait le courage de lui obéir. Et vainement, ils essayaient de la calmer. Qu'avait-elle à craindre au milieu de vieux hommes pauvres? Du moins, ces vieux hommes sauraient la protéger. « Non !» s'écria-t-elle. « Dieu ne m'a pas pardonné, laissez-moi partir !» Josta Berling comprit qu'il serait encore plus dangereux de s'opposer à son désir que de le contenter. Il s'approcha d'elle, bien que tous ses muscles se raidissent contre ce qu'il allait faire, et la pria de se tranquilliser. Puis il la prit, la porta dans le canot et rama vers la rive de l'Est. Ils abordèrent un petit sentier, et le jeune homme l'aida à descendre. « Que deviendrez-vous » demanda-t-il. Elle leva le doigt vers le ciel. « Si jamais, chère comtesse... » Sa voix le trahit, mais elle devina son intention. « Oui, fit-elle, si j'ai besoin de vous, je vous enverrai chercher. » « J'aurais voulu vous protéger, » dit-il. Elle lui tendit la main, une main qui restait dans la sienne inerte et froide. Quand il revint au chaland, il tremblait de fatigue comme s'il eût accompli la tâche la plus pénible de son existence. Est-il vrai, ainsi que le prétend la légende, que les cavaliers avaient à bord plus de sable que de fer? Est-il vrai qu'arrivés à Karstadt, ils portèrent et reportèrent de la bascule au chaland les mêmes barres jusqu'à ce que des centaines et des centaines de quintaux fussent pesés? Est-il vrai qu'ils y réussirent parce que le maître de la bascule et ses gens goûtèrent un peu trop au panier de provisions et aux bouteilles d'aigbeux? Tant il y a qu'on était gai sur les chalands. Dès que les cavaliers eurent leur quittance, ils rechargèrent eux-mêmes leurs fers sur un voilier du Fenhorn. D'ordinaire, les caboteurs s'occupaient du transport jusqu'à Gothenburg, et la livraison faite, les forges du Fermland ne s'en souciaient plus. Mais les cavaliers, plus scrupuleux, désiraient suivre leurs marchandises jusqu'à destination. Sur le Fenhorn, un accident arriva. Il y eut cette nuit-là, paraît-il, un coup de vent qui les poussa contre un écueil et le voilier coula avec sa charge. Les cavaliers perdirent leur corps de chasse, leur jeu de cartes et même, dit-on, des bouteilles pleines. Mais l'honneur d'Egbe était sauvé. Le fer avait été pesé à Karlstadt. Le commandant écrivit aux négociants de Gothenburg pour leur annoncer le sinistre, et tout fut dit. Et si les ports, les écluses, les meules de charbon, les mines, les chalands et les voiliers murmurent et chuchotent d'étranges choses? Si un bruissement passe dans les forêts et dit que tout ce voyage n'a été qu'une frime? Si tout le Fermland affirme qu'il n'y eut jamais plus de 50 malheureux quintaux à bord des chalands et que le naufrage avait été un coup monté? Eh bien, un nouvel exploit a été accompli, un vrai tour de cavalier. Ce n'est pas cela qui nuit à la réputation du vieux domaine. D'ailleurs, il est possible que les cavaliers aient acheté du fer ou qu'ils en aient trouvé dans des magasins oubliés. Qui saura jamais la vérité? Le maître de la bascule, lui, n'a jamais voulu entendre parler de ruse ou de plaisanterie. Quand les cavaliers revinrent au manoir, ils apprirent que le comte Donna avait envoyé chercher en Italie des preuves que son mariage n'avait pas été légal. J'ignore quelles pouvaient être ces preuves. Il faut traiter doucement les vieilles histoires. Elles ressemblent à des roses fanées dont les pétales tombent aux doigts qui les touchent. Toujours est-il que, quelque temps après, le tribunal de Braux déclara nul le mariage du comte Henrique Donna et d'Elisabeth Ducœur.